Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Peter Weir est à Seguin ce samedi dans Plan Large avec Peter Weir et aussi Entebbe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Est-ce parce qu'il a connu un immense succès populaire dans ses équipées hollywoodiennes, en premier chef avec Le Cercle des Poètes Disparus, mais aussi Witness, The Truman Show et Master and Commander, que Peter Weir n'a pas toujours la place qu'il mérite dans l'histoire du cinéma et le cœur des cinéphiles? Certes, on reconnaît au cinéaste dans ses premières œuvres au pays natal d'avoir non seulement inscrit l'Australie sur la planète cinématographique, mais aussi inventé un cinéma quasi mystique avec ses chefs-d'œuvre entre deux mondes, que son pique-nique à Hanging Rock ou La Dernière Vague. Certes, on le reconnaît responsable de l'accession au rang de star internationale de Mel Gibson avec Gallipoli et surtout L'Année de tous les dangers. Certes, il n'a plus donné de ses nouvelles depuis le survival en étendue glacée ou désertique qu'est Les Chemins de la Liberté en 2011, mais à bien y regarder, tous ses films, dont L'Injustement oublié et incompris à sa sortie il y a 30 ans, est à Seguin avec un Jeff Bridges rescapé d'un accident d'avion et perdant tout rapport avec la réalité, tous ces films forment un ensemble tout à fait cohérent où se dessine un auteur discret et humble plongeant ses personnages dans des périples initiatiques au bord de l'ésotérisme. Sa venue en France comme invité d'honneur du 11e Festival de la Cinémathèque Française, ex Toute la mémoire du monde, la projection de plusieurs de ses films parmi la centaine d'œuvres de toute l'histoire du cinéma qui sont présentées en copie restaurée était donc un événement que nous ne pouvions laisser passer. Nous avons rencontré Peter Weir à sa descente d'avion dans un hôtel parisien au bord d'une rue très passante. On le retrouve dans un instant. En fin d'émission, Entebbe s'intéressera lui aussi à une figure à rien oubliée et pourtant immensément influente encore aujourd'hui, le cinéaste et chorégraphe des multitudes kaléidoscopées Busby Berkeley, à l'occasion de la parution d'un essentiel ouvrage à lui consacré. Mais pour l'heure, tout commence au bord d'une piscine du Connecticut avec rien moins que Burt Lancaster.
Well, I've got to be on my way. I'm swimming home.
You're swimming home?
I figured out there's a river of pools all the way to my house.
That's more hiking than swimming.
Well, not hiking exactly. Portaging.
Well, it's okay if you like exercise.
What a crazy idea.
I think it's a brilliant idea.
From here I go to the bunkers. Then a portage through the Paston's riding ring to the Hallorans and so on. Got it all mapped out in my mind.
Well, what are you doing it for? Why do you want to do it? I think it's very original. As if he's an explorer or something. I mean, I think it's an adventure.
Come with me.
Well, gee, I...
Come on, live a little.
Well, I don't know if...
We'll explore the torrential headwaters of the Lucinda River.
All right, I will.
Ready? Go!
Bonjour, Peter Weir.
How do you do?
Très bien, et vous?
A little bit of jet lag.
Ça va bien, mais un petit peu jet lagué, un petit peu.
Alors écoutez, Peter Weir, avant qu'on ne traverse votre filmographie, je suis très curieux des films que vous avez choisis pour la carte blanche que vous a proposé la Cinémathèque française. Ils sont trois. Il y a un film australien de Charles Chauvel qui s'appelle Jeddah. Il y a un film japonais, La Femme des Sables, de Hiroshi Teshigahara. Et puis ce film très étrange de Frank Perry qui s'appelle The Swimmer. Qu'est-ce que ces films nous disent de vous? En quoi est-ce qu'on peut les considérer comme une sorte d'autoportrait du spectateur que vous êtes, Peter Weir?
I think this is a question that I could put to you.
C'est une question que je pourrais vous poser aussi.
Look, it intrigued me to choose these films.
Ça m'a intrigué de faire ce choix.
The Cinematheque said some things from the deep past.
des films anciens.
I understood it before I started making
films. Et donc j'ai compris d'abord que c'était avant que je commence à faire du cinéma. So it made me wonder why they had stuck envie de me questionner sur pourquoi ces films étaient restés dans ma mémoire, des films auxquels je pensais souvent. Mais c'est vrai que ça a été pour chacun une influence profonde, tous les trois. Et ce qui reste de ces films à travers les dizaines d'années, c'est qu'il y a un lien émotionnel, pas intellectuel, qui reste avec eux.
On pourrait dire qu'on retrouve dans ces films des motifs qui sont dans votre cinéma, des acteurs aborigènes chez Charles Chauvel, comme dans La Dernière Vague, du désert, il y en a beaucoup dans vos films, et de l'eau, il y en a beaucoup aussi dans vos films.
I was thinking about this, flying across the Indian Ocean,
je pensais à ça dans l'avion au-dessus de l'océan Indien quand je venais ici. Dans mon A380.
You have nothing to do up in the sky,
là-haut, vous n'aviez rien à faire. Reflect. Vous ne pouvez que réfléchir. Et je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ces films, quelle influence ils avaient eue. Et j'ai pensé à La Femme des Sables. La Femme des Sables, c'était un petit peu comme Picnic à Hanging Rock, en fait. C'était quelque chose de très tactile. Il m'a semblé qui caractérise ce film. Je me rappelais ça en termes tactiles. Le son, la texture. Et avec Picnic, j'avais voulu ensuite faire un film comme ça, un film mystérieux sans solution. Jeddah, j'avais 12 ans quand j'ai vu ce film. Le premier film australien en couleur, réalisé par Charles Chauvel. C'était la première fois que je voyais mon propre pays dans un film. La première fois que je voyais des aborigènes dans leur tradition. J'aurais aimé, moi aussi, avoir un petit bout de ce film. C'était extraordinaire pour moi. Je ne me rendais pas compte que j'habitais dans le même pays que ces aborigènes. Je n'avais jamais vu un aborigène. Et pour The Swimmer, j'adore l'idée de ce film. Dès le début, Burt Lancaster, dans son maillot de bain, c'est un matin d'été, il fait très beau, il regarde le paysage, c'est la côte est des États-Unis, et il se dit, je vais pouvoir rentrer chez moi en passant d'une piscine à l'autre. Je vais rentrer chez moi à la nage. Et là, je me rappelle me demander, mais pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Quelle idée étrange, bizarre, de passer d'une piscine à l'autre pour retourner chez soi. Mais c'est quelle idée belle.
Alors, j'imagine que quand vous étiez enfant, ce n'était pas tellement ce genre de film que vous voyez. Dans quel genre d'image vous avez grandi, Peter Weir? Est-ce que c'était principalement du cinéma américain?
Well, firstly, in this internet age,
tout d'abord, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'Internet où les images, on est bombardé d'images. Et quelque part, dans ma génération, c'était la même chose. C'était la même chose, mais quelque part à l'envers. Il y avait deux grandes influences, la BD, les comics, je les collectionnais. Et puis le cinéma, le samedi après-midi, surtout des westerns américains. La télévision n'est pas arrivée chez moi avant 12 ans, l'âge de 12 ans. Et puis quand j'ai rencontré des amis réalisateurs en Amérique, beaucoup plus tard, on avait la même culture, la culture d'après-guerre, la culture américaine d'après-guerre. Et puis, en vieillissant, l'influence est venue du cinéma international, les grands films des années 60. Les Américains changeaient de style. Et il y avait là de nouvelles façons extraordinaires de faire du cinéma. Il y avait donc The Swimmer de Frank Perry, le lauréat. Et puis c'était la même chose dans le cinéma international.
And these monstres sacrés were still
working. Et puis il y avait des monstres sacrés qui travaillaient encore. Fellini, Antonioni, beaucoup d'autres.
Quand est-ce que vous avez réalisé que derrière un film, il y avait un créateur, Peter Weir, qu'il y avait quelqu'un qui était le réalisateur du film?
J'ai l'impression que c'est quand j'ai réalisé moi-même mon premier court-métrage, en 1967. 15 minutes. Et quand j'ai réalisé le générique, je me suis crédité en tant que producteur, alors que je l'avais réalisé. Un ami a souligné ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Il dit, non, tu es le réalisateur.
Mais oui, mais tu es producteur aussi quand tu es réalisateur, mais tu es réalisateur. On en a rigolé. Et depuis, je signe effectivement mes films par le terme réalisateur.
Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour vous d'avoir commencé à faire du cinéma dans un pays qui n'avait pas d'industrie du cinéma? Il y avait quelques cinéastes australiens comme Charles Chauvel dont vous avez parlé, mais il n'y avait pas vraiment de cinéma australien.
I think that's true.
C'est exact.
One thing, yes, you get plus or minus of everything.
Oui, dans toutes les situations, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y avait effectivement des gens extraordinaires, comme ici, des générations précédentes. On pouvait leur poser des questions, on pouvait discuter avec eux. De l'autre côté, il y avait une liberté de ne rien avoir auparavant. On créait tout ce qu'on faisait. Et puis, on avait des films. C'était un moment extraordinaire pour le cinéma, de voir les nouveaux Kurosawa, etc. C'était eux, nos professeurs. Et les films précédents, c'était difficile de les voir parce que la télévision ne montrait pas beaucoup de classiques du cinéma. Il y avait des films l'après-midi, c'était en noir et blanc, mais Hitchcock était présent, en particulier avec Psychose.
Alors, je ne sais pas qui vous a inspiré, si même quelqu'un vous a inspiré ce film fou, qui est votre tout premier film, tout votre premier long-métrage, Les voitures qui ont mangé Paris. Précisons que Paris, ce n'est pas la capitale de la France où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est un petit village dans l'outback australien avec des naufrageurs de la route. Comment vous est venue cette idée folle qui, d'une certaine façon, anticipe Mad Max? C'est presque le préquel de Mad Max, Peter Weir.
Well, I take that as a compliment.
Je prends ça comme un compliment.
A friend of George Miller's and
je suis un ami de George Miller et j'admire vraiment son Mad Max.
It was some sort of fusion, I think, between.
Il s'agissait d'un mélange quelque part de plusieurs influences.
It was actually not the cars, but when I
pas tellement
took
les voitures. Mais quand j'avais présenté la dernière vague chez Paramount, après la présentation de ce film, Don Simpson, il est décédé maintenant, mais c'était quelqu'un de très flamboyant, il m'a dit, mais ce film, c'est un mélange de films français et américains. Et donc, les voitures qui ont mangé Paris, c'est ce mélange-là. J'ai l'impression que ça reflète un peu ces séries B qu'on regardait tous samedi après-midi. Pas seulement des westerns, mais des films de gangsters. Des films très exagérés où tout était plus grand que nature. Avec un peu de rêve et d'imagination.
What we see and what we seem are but a dream. A dream within a dream.
Le film qui vous fait découvrir dans le monde du cinéma, c'est ce chef-d'œuvre absolu qui est Picnic à Hanging Rock en 1975. C'est l'histoire de la disparition mystérieuse d'un groupe de jeunes filles dans un rocher mystique au début du XXe siècle. La beauté de ce film réside pour beaucoup dans ce mystère, précisément, dans cette non-explication. Et c'est une caractéristique de votre cinéma, je crois, Peter Weir. Vous laissez souvent le spectateur en état de suspension. Vous n'êtes pas là pour lui donner des réponses.
Well, I think I of course like this when it was done to me.
Mais oui, parce que j'aime quand justement cela m'arrive au cinéma.
I always like that idea of the feeling that I've
j'aime ce sentiment.
Had, perhaps rarely, but
where you've come out of the cinema dans une salle, enfin on sort de la salle.
And you thought it'd be night and you don't know where
you parked the car. Et on oublie que c'est déjà la nuit, on oublie où on a garé la voiture.
Bound up in the world created by the filmmaker.
Tellement entré dans le monde créé par le metteur en scène, que vous avez eu une expérience qui vous a transporté hors de vous-même, qui vous a emporté dans un autre pays. C'est aussi simple que ça. J'ai envie de faire ce qu'on m'a fait.
Et ça passe précisément par ce sentiment qu'on a, là encore, souvent chez vous, Peter Weir, d'un temps qui est arrêté, d'un espace qui est circonscrit, dont on ne peut pas ou dont on ne veut pas s'échapper. Et vous l'avez notamment obtenu par un usage très subtil, presque invisible, du ralenti. Comment est-ce que vous avez procédé ?
J'ai effectivement utilisé une sorte de ralenti dans Picnic à Hanging Rock parce qu'il y avait un grand pari là à relever. C'est un peu un whodunit, comme on dit, comme genre. On cherche le coupable. Mais on n'avait pas de solution à ce mystère. Et je me suis rendu compte que le public allait vouloir et s'attendait à une explication. Il fallait que je trouve quelque chose d'autre à donner au public. Et mon ambition, c'était de faire que le public ne réclame pas une résolution. Quelque chose du style, je voulais éviter, ouais, c'est le domestique qui est coupable, tout comme ça, non. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas que ce soit même une solution de science-fiction. La pureté de la disparition, c'est ça qui m'a intéressé. Parce que quelque part, disparaître, c'est être ni mort ni vivant. Et c'est là où le cinéma arrive à être extraordinaire. Et pendant les guerres, vous savez, beaucoup de gens par la suite recherchent le corps des disparus. Il m'a semblé que c'était quelque chose de très fort. Mais bon, c'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a des gens qui ont été déçus par le film, surtout en Amérique.
Après Picnic à Hanging Rock vient la dernière vague, vous l'avez déjà un peu évoqué, Peter Weir. Alors vous nous parliez tout à l'heure de votre découverte des aborigènes quand vous avez vu Jeddah, le film de Charles Chauvel. Et on a l'impression que ces trois films, Les voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Hanging Rock et La dernière vague, c'est comme un travelling avant pour vous rapprocher des aborigènes. Dans le premier film, ce sont les colons, aucune présence des aborigènes. Dans le deuxième, il y a ce rocher qui représente comme une trace de millions d'années de la présence humaine sur ce territoire avant les colons. Et puis enfin, La dernière vague, vous les filmez.
Il faut que je parle alors de David Gulpilil, qui a cet homme qui a initié tellement de choses et qui a d'abord est apparu dans le film de Nick Rogue. Qui a mis vraiment la lumière sur lui. Et j'ai travaillé sur une série télévisée qui s'appelait Luke's Kingdom, une série d'époque, une série en costume où il jouait un aborigène. Et j'avais participé à ça, mais je n'avais pas parlé avec lui. Et j'étais fasciné. Son accent était assez fort. L'anglais était sa seconde langue. Et il racontait des choses qui étaient incroyables. Il voyait le monde différemment. Je suis certain que c'est ça qui m'a marqué au cours des années, avant que l'on retravaille ensemble. C'était vraiment lui que je voulais vraiment voir dans le rôle, dans le film.
Et de fait, vous vous êtes projeté dans une vision aborigène et vous entraînez le spectateur avec vous, comme si vous nous faisiez penser et voir le monde autrement, dans La dernière vague, Peter Weir.
C'était certainement mon projet. C'était frustrant comme situation. Et
je
n'en ai pas beaucoup parlé, mais j'avais écrit une histoire de fiction, un peu un rêve, une rêverie un peu mélodramatique. Mais en travaillant avant le tournage avec David, et même pendant le tournage, et Andy Warra, qui jouait le voyageur le plus âgé, j'ai eu le sentiment que j'avais besoin de plus de choses. Il me manquait une compréhension intime de leur vision du monde. Et bien sûr, c'était vrai. Mais pour le mettre en place, c'était très, très difficile. Il y avait un magistrat qui habitait dans une île lointaine, dans le golfe de Carpentaria, sur l'île de Gruta, qui avait été découverte par les Hollandais. Et en parlant avec cet homme âgé, avant le tournage, j'ai trouvé là des moments de solitude un peu avec lui, puisqu'on parlait en anglais, parce que je ne comprenais pas tout de ce qu'il se disait. Et quelque part, comme une vieille radio dont on perd un peu la bonne fréquence, je ne comprenais pas toujours ce qu'il me disait. Et ça, c'est parce que leur perception du monde, elle vient d'ailleurs. C'est d'une culture de 65 000 années. Et c'était tellement étrange, ce microcosme, cette essence des choses. Il y avait une collision des deux mondes qui était tellement forte. Une collision qui a commencé quand l'homme blanc est arrivé. Et il n'y avait pas de réponse à ça. C'était une rencontre fatale. Mais quelle fascination quand on s'y intéresse pour leur vision des choses. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour que le film en rende compte. Il y a une scène de dîner où les deux aborigènes viennent manger, Angie, le plus âgé, ils sont avec cette famille blanche de l'avocat et de sa femme. Et ça, c'était une idée vraiment d'Angie, ce dialogue.
Et Nanjiwara,
il dit son dialogue dans sa langue, et Gulpilil traduit, et il dit « la loi est plus importante que l'homme ». Et ce sont des avocats et des hommes de loi, tellement. Et l'autre répond « mais non, c'est l'homme qui est plus important que la loi ». Si jamais ce n'est pas le cas, il faut changer la loi. Les aborigènes répondent non. C'est ça, la collision qu'il y a avec le monde blanc.
By the dear old motherland, we will surely lend a hand if England needs a hand, we'll hear it is.
Après avoir fait cette rencontre entre des hommes blancs et des aborigènes, ces hommes blancs, vous les envoyez en Turquie avec ce film Gallipoli qui retrace la bataille des Dardanelles 1915-1916. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce moment-là de l'histoire de l'Australie ? Je crois que vous avez raconté que cette bataille, c'est un peu l'acte fondateur de l'Australie comme pays moderne. Peter Weir.
Mais oui, je crois effectivement que c'est le moment fondateur. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour faire le film. C'était vraiment une raison d'émotion, émotionnelle. Par hasard, j'avais commencé à réfléchir à un film sur la Première Guerre mondiale. Et c'était à Londres, c'était pour la première de Picnic à Hanging Rock. Et j'ai commencé à considérer la péninsule de Gallipoli en Turquie. Il y avait là des cimetières de soldats qui étaient morts sur place. Et on peut voir encore les tranchées. Le sol est jonché de fragments de bombes et des bottes déchirées. Et je suis allé nager là où justement les gens nageaient. Là, j'ai commencé à imaginer ce que serait d'être sous l'eau, sous le feu des armes et sous le feu des obus. Se trouver coincé sous l'eau à ce moment-là. J'ai trouvé toutes ces pièces de mémoire. Et de retour à l'hôtel, je me suis dit, il faut que je fasse ce film sur ces hommes, sur ces soldats-là. C'était la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film, c'est en visitant le lieu. Et puis je suis passé à une autre chose. Je me rappelle qu'à un moment, pendant les entretiens, Ingmar Bergman, qui, en entretien, il dit souvent la suspension de la non-croyance. Il en parle à propos du cinéma. Il dit, on peut arriver à tout faire, presque tout faire, mais on ne peut pas tuer quelqu'un. On
ne
peut pas faire penser au public que quelqu'un est mort. Il faut que le public sache que c'est un comédien. Et ça, je l'ai pris vraiment personnellement, comme un pari.
War films, you see,
je me suis dit, dans les films de guerre, les réalisateurs montrent le carnage, ils y mettent beaucoup d'efforts, des blessures, des douleurs. On sait que ce sont des effets spéciaux. Mais je me demande si je peux arriver à vous faire croire qu'un homme est mort et que cet homme, ce serait quelque part... Ce serait un homme dans une santé insolente. Il serait en pleine forme et paf, il est tué. C'était mon idée, finalement.
Est-ce qu'on peut dire que votre film suivant, L'année de tous les dangers, est une prolongation de votre réflexion sur la violence ? C'est un autre film avec Mel Gibson. Hein. Ce sont les deux films qui font de Mel Gibson une star internationale. Mais ce sont des personnages que vous mettez en situation extrême, en situation de danger extrême, Peter Weir.
Yes, I mean, yes, I was interested in
oui.
that, but perhaps
ça,
not
ça
m'intéressait.
Primarily. Peut-être pas en premier lieu, cependant.
I'd been, as we Australians were able to do, been to Bali.
J'étais allé à Bali, comme beaucoup d'Australiens, dans les premières années. J'aimais cette culture balinaise.
On entend des klaxons, mais c'est normal, nous sommes dans Paris, hein, les voitures continuent à manger Paris. Mais je vous en prie, continuez à nous parler de Bali.
I love a line in the book, description,
et j'aime beaucoup une description que j'ai d'ailleurs utilisée dans la voix off. Quand nous, les Occidentaux, on a découvert l'Asie,
you become like a child
again. On redevenait un enfant.
Everything is full of wonder and you don't understand really
merveilleux et on comprend pas vraiment comment fonctionnent les choses.
It has its own particular appeal
to
me
and
I think to the characters.
Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer pour
I
les
like
personnages.
That very simple setup that
j'ai voulu
Mel Gibson's
montrer
character arrives
effectivement la simplicité du personnage, la situation finalement.
Kind of
Mel Gibson arrive dans ce pays et il ne sait rien du tout ce qui se passe. Il a un guide en la personne de Billy Quant qui est métisse asiatique et qui devient un guide pour lui dans ce labyrinthe de cette culture. Il est entouré, effectivement, de dangers partout.
Et là encore, Peter Weir, c'est un schéma qu'on va retrouver dans plusieurs de vos films. Un personnage qui débarque dans un milieu qui lui est étranger, dont il devra apprendre les codes, et qui va se poser la question, est-ce que je dois y rester ou pas ? Ça pourrait être le scénario de Witness, on n'en est pas très loin.
Yes, I think that perhaps, you know, everything... goes back to experiences
oui, peut-être que tout remonte à des expériences anciennes et qui pour moi remonte à mes premières expériences en Europe en 1965. Par chance, par grande chance, j'étais venu par bateau sur un bateau grec. 5 semaines. En mer. Et là, j'ai vraiment senti la distance. Aujourd'hui, là, me voilà à Paris et j'étais en Australie il y a 2 jours. Mais il y avait à l'époque un sentiment de distance, de découverte. D'abord Sri Lanka, puis l'Égypte brièvement. Et puis, destination Athènes.
So that, I think, literal rite of passage.
Et c'est vraiment un rite de passage, il me semble, que j'ai vécu à ce moment-là. Et ça m'a changé, ça m'a transformé.
I was 20,
j'avais 20 ans.
And to my parents' astonishment and
et pour mes parents,
I never came home.
Et ça les a terriblement déçus. Je ne suis jamais revenu.
Un autre moment donc, où vous avez fait un grand voyage et vous changez de lieu, c'est entre L'année de tous les dangers et Witness, puisque vous devenez un cinéaste hollywoodien. Comment s'est passée votre acclimatation à Hollywood ? Tout d'un coup, vous deveniez une sorte de cinéaste classique à qui on proposait des scénarios. Ce n'était plus vous qui étiez à l'initiative d'un projet.
My next film was not to be Witness.
Le film suivant ne devait pas être Witness, non.
Mosquito Coast.
Ça devait être Mosquito Coast.
And I was down in Getting ready, finding
et je
locations
me préparais à chercher des décors
in Belize, in Central America.
En Amérique centrale,
and one day in the jungle, we were
dans la jungle,
the river by punt,
et
by
on,
barge.
On traversait une rivière sur une barge, un véhicule l'un après l'autre. Ces barges arrivaient, le véhicule descendait, on devait prendre la place. Et sur la barge qui arrive, il y avait des gens vraiment étranges, qui étaient habillés avec des chapeaux de paille. Les femmes avaient des sortes de coiffes. Je me disais, oulala, ça c'est des gens très chics. Ils ont fait une fête sans doute, et ils sont là le matin encore après la fête. Et j'ai dit à quelqu'un qui m'accompagnait, il me dit, non, c'est pas des gens qui ont fait une fête, ce sont des Amish. C'est un groupe religieux. Ils vivent là, à Belize, en Amérique. Et ça, c'était vraiment étrange. Et bref, en tout cas, le film que je préparais, le film que je voulais faire, Mosquito Coast, le financement a disparu. Et donc, j'ai dit à mon agent, j'ai envie de travailler comme un réalisateur des années 30 ou 40, Fred Zinnemann ou Billy Wilder, comme à Hollywood. Envoyez-moi trois scripts de Hollywood, et j'en choisirai un. Et donc, bon, fais pas ça, il m'a dit, mais non, je veux des scénarios que je peux faire, j'en veux trois. Et donc, j'en ai reçu un qui s'appelait Witness, et c'était écrit sur la page 1, Les Amish. Et je me suis dit, waouh, ça c'était vraiment une bénédiction, quelque chose vraiment qui était un signe.
Ce qui est très beau dans un film comme Witness, c'est que vous nous parliez tout à l'heure des cinéastes américains de votre génération qui ont la même culture pop du cinéma, de la bande dessinée. Mais au contraire de ces cinéastes, vous n'affichez pas vos références cinéphiles. Ou alors je ne les ai pas vues. Mais on a le sentiment, quand vous faites un thriller comme Witness, que vous faites comme si vous étiez le premier à réaliser un thriller. C'est-à-dire vous posez de pures questions de mise en scène sans vouloir vous référer explicitement à ce qui s'est fait avant vous. Est-ce que c'est le cas, Peter Weir?
Well, yes, I mean, I think I wanted to
oui, j'avais
always
envie,
serve
je crois,
story.
D'être au service de l'histoire.
I was heavily influenced by
j'étais
a little documentary
fortement
I made,
influencé par un petit documentaire que j'avais fait auparavant, que je n'avais pas fait grand-chose en documentaire, sur un potier australien qui prenait sa retraite. Et son mentor était un potier japonais. Et on était tombé d'accord, on allait le filmer, il était à Sydney. Donc un soir, on est allé le filmer, et quand on attendait, on patientait que ses poteries cuisent dans le four, on a commencé à discuter. Et il dit, vous, à l'Occident, après l'âge de la raison, vous avez commencé à voir l'artiste comme un dieu. Nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas cette tradition au Japon. Nous sommes des potiers. Nous sommes des calligraphes. Et les anciens potiers faisaient leur poterie sans aucune expérience. Et si jamais vous aviez la chance de tomber sur un maître, vous pouvez signer votre poterie. Et vous faisiez ça pour les gens. Une coupe, un bol. Et de temps en temps, les dieux toucheraient votre main et ce serait là une œuvre d'art. Et ça, je l'ai vraiment pris pour moi. C'était comme ça que j'avais envie de travailler, de faire quelque chose pour les gens, un spectacle pour eux, de leur fournir du plaisir. Et ce ne serait pas du tout autour de moi seulement, ce serait pour eux et pour leur propre expérience.
Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That's seize the day. Very good. Mr.
Meeks.
Meeks. Another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines?
Because he's in a hurry.
No. Ding! Thank you for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die.
Après Mosquito Coast, que vous avez fini par réaliser, hein, toujours avec Harrison Ford, vous faites le film Peter Weir, qui est sans doute votre film le plus connu, votre plus grand succès populaire, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. J'imagine qu'il y a encore des gens qui vous abordent en vous disant Carpe Diem ou en vous appelant Captain, Oh My Captain. Qu'est-ce qui vous avait séduit au départ, là encore, dans le scénario de ce film, Peter Weir?
I loved the title.
Mais j'aimais le titre.
Je me préparais
à travailler avec Gérard Depardieu pour Green Card.
But he was booked for two
mais il
years,
était pris
maybe.
Pour deux ou trois ans, et donc il fallait que j'attende. Et le patron du studio chez Disney m'a dit, fais donc un autre film en attendant.
This was the same boss who had been at
C'était
Paramount.
Le même patron qui est à Paramount, pour lequel j'avais fait Witness.
He gave me a script. He said, "Read it on
Il m'a donné
plane.
Le scénario, il m'a dit, lis ça dans l'avion.
Read on planes, but I took it.
Je ne lis jamais
and
dans
I
l'avion,
did
je lui ai dit.
Title
mais j'ai quand même pris le scénario et j'ai lu le titre, Dead Poets Society. Et vraiment, ça m'a plu. En tout cas, j'ai adoré.
But I said no,
mais j'ai dit non au téléphone.
He said, you loved it,
il m'a dit, mais
no.
tu l'adores, mais
Why
tu ne veux pas faire.
No?
Pourquoi tu me dis non?
And I said, well, you have this wonderful
répondu,
Carpe Diem.
Ben, il y a cette histoire de Carpe Diem et ce prof tellement enthousiasmant.
Way, and then
et puis,
the bottom falls out of it.
À la fin, ça ne marche plus.
He has cancer.
Il a le cancer.
And he's in the hospital,
il est à l'hôpital. Et les gamins viennent lui dire adieu.
And they realize why he said Carpe Diem,
et là,
he was dying
il se rend compte qu'il disait Carpe
and
Diem
said, so,
parce
so
qu'il avait le cancer.
And I said, well,
et j'ai dit,
il devrait le dire anyway, not.
Il devrait dire Carpe Diem de toute façon, même s'il n'est pas mourant du cancer, tu vois. Et il m'a dit, comme un médecin, comme un docteur, si jamais tu coupes, tu enlèves. Et donc, on avait une discussion de chirurgien. Oui, oui, on va faire une ablation du cancer dans le scénario. Oui, oui, ablation du cancer. Et on a jeté les pages et ça fonctionnait. Quand même, le scénario.
So I was in.
Et donc voilà, j'ai dit.
And I'd met Robin before.
Et j'avais rencontré déjà Robin Williams. Et on s'était bien entendu dès le début. Je trouve que c'était un choix de casting remarquable.
Alors, il n'y a pas de cancer pour le professeur, mais il y a une mort terrible dans le film. Et on revient à ce que vous disiez sur le film de guerre. Tuer quelqu'un ou pas. Comment est-ce qu'on décide de tuer un adolescent dans un film, Peter Weir?
I was very concerned about
ça m'inquiétait beaucoup.
Suicide in this film.
La question du suicide dans
and,
ce film.
I thought, what if the film's a real success?
Je me disais, mais si jamais le film marche, et que
you know, people who see
savez,
this as a,
des gens qui
a noble
se disent que c'est
act.
Un acte noble
so I sent, I was
que
recommended
de
a
se suicider.
Very,
et donc,
accredited psychiatrist who dealt with
j'ai voulu m'adresser
teenagers who
à
were in crisis,
un psychiatre qui s'occupait d'adolescents en crise
and asked for his advice.
Et j'ai lui demandé conseil.
And he gave me good advice.
Et il m'a donné vraiment un conseil précieux.
You must show a weakness
dit, il faut montrer une faiblesse chez lui.
Don't let him be heroic.
N'en faites pas un héros.
Even show him lying that he has not spoken to
même
his father.
Montrez-le en tant que mentir à son père.
Give him a chance to
et donc, donnez-lui une possibilité de faire quelque chose d'autre que la volonté de son père. Et même à ce moment-là, j'ai mis la caméra plutôt en hauteur par rapport au jeune garçon. Il a l'air plus petit comme ça. Et on n'a jamais eu d'écho du moindre problème par la suite. Quelque part, c'était sa décision, c'était son drame, c'était sa faiblesse. Mais ça reste un événement tragique dans le film.
D'autant que le film, effectivement, a eu beaucoup de succès. Heureusement, donc, il n'a pas déclenché une vague de suicides. Vous n'êtes sans doute pas le mieux placé pour répondre à cette question, mais est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi, tout d'un coup, un film rencontre ses spectateurs? Pourquoi est-ce qu'il entre en résonance avec l'époque, Peter Weir?
Non.
Non, je ne sais pas.
If we knew this,
si on le savait.
Secret.
Ce secret.
Then, of course, we would work toward.
Alors bien sûr, on essaierait de s'y approcher à chaque fois. Il y a des théories. Mais je crois que c'est pas si intéressant que ça d'analyser le succès d'un film pour essayer d'en trouver des recettes.
It's perhaps more interesting to wonder
le sujet,
why
l'époque.
Film failed,
c'est plus intéressant de comprendre pourquoi un film est un échec. Pour le public ou pour le réalisateur. Le film doit effectivement trouver une connexion avec le public. Mais c'est difficile à analyser, surtout quand c'est votre, vous qui l'avez fait.
Sometimes I had a fantasy like a,
parfois, je rêve d'être dans un avion et je suis le pilote de l'avion. L'avion, c'est le film. Et finalement, les voyageurs dans l'avion, ce sont les spectateurs du film. Et puis, c'est moi qui me prends toutes les décisions. Et puis, je suis en train de foncer vers une montagne. Et là, je deviens finalement en train de savoir, puisqu'il y a eu un crash, quel est le problème ? Est-ce que ça a été un problème du pilote ? Est-ce que ça a été un problème avec l'appareil ? Mais je ne réponds, jamais je ne trouve la réponse. C'est ça mon rêve, mon cauchemar.
Mais ça pose précisément la question du créateur comme Dieu, comme vous nous disiez tout à l'heure, Peter Weir, à propos de ces vases japonais. Et cette question, vous l'interrogez dans un film qui s'appelle The Truman Show. Il y a ce personnage joué par Ed Harris, Christophe, qui est littéralement un producteur, réalisateur, Dieu. Est-ce que ça venait précisément de vos réflexions sur le rôle que vous jouez dans un film, sur un plateau, par rapport à vos acteurs, à vos personnages, Peter Weir?
Tout d'abord,
it is Andrew Nichols' screenplay.
C'est vraiment le scénario d'Andrew Nichols.
Yes, I changed it heavily.
Mais effectivement, avec sa permission, j'ai beaucoup fait de changements.
His was much darker and very
successful.
C'était
un scénario beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, un très bon scénario. Mais ça fonctionnait en tant que scénario. Mais de le filmer, de la filmer, de la mettre à l'écran, il me semble que cette noirceur ne serait pas si logique que ça. Que pour quelqu'un qui passait sa vie comme ça dans ce studio, dans ce monde-là, c'était vraiment trop triste. Il fallait que ce soit un film lumineux. Il fallait que cet endroit ressemble à un lieu de vacances où les gens semblaient heureux et que les gens soient contents de regarder. J'ai dit à Andrew, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu continueras à travailler avec moi? Ou est-ce que tu veux quitter le navire? Et heureusement, il m'a répondu, non, je reste. Il était en train de préparer son premier film, Gattaca.
Et
c'est Christophe, effectivement, le personnage, le seul, qui était plus conventionnel. C'était quelque part le méchant de l'histoire. Et moi, j'avais envie, comme vous avez dit dans votre question, d'en faire plus un artiste, un créateur. Même s'il est un peu psychotique, cruel,
et
sans aucune émotion. Il a une sorte de sentimentalité,
et
il aime beaucoup aller dans le sens de la sentimentalité, mais c'est un être manipulateur, mais pas exactement quand même un méchant conventionnel. Ed Harris, c'était vraiment l'acteur rêvé pour moi, pour ça. Il a complètement compris ce que je voulais.
We've become bored with watching actors give us phony emotions. We're tired of pyrotechnics and special effects. While the world he inhabits is in some respects counterfeit, there's nothing fake about Truman himself. No scripts, no cue cards. It isn't always Shakespeare, but it's genuine. It's a life.
On a l'impression que vous représentez l'Amérique telle qu'elle se fantasme, un pays où on est bien entre soi, on est le meilleur pays du monde, alors que bon, c'est un pays assez dysfonctionnel aussi, tel que vous le montrez.
Ce film,
bristling with metaphors.
Il frémit de métaphores. Il est plein de métaphores. Il faut faire très attention, parce que c'est un petit peu comme un hérisson. Il y a des métaphores que l'on place là. Il y en a qui piquent. Certaines étaient là depuis le début. Oui, il y a une critique du capitalisme. Il y a effectivement une évocation de la religion. Il y a quelque part le passage à l'âge adulte d'un homme qui doit soudain prendre des risques. Et puis, il y a un prisonnier qui s'échappe de sa prison. Et il ne se rendait pas compte qu'il est né dans cette prison.
Donc,
j'ai un peu ignoré certaines de ces analogies et j'ai essayé de les laisser finalement grandir et avoir leur propre vie dans le film. Mais le spectateur, je pense, peut prendre ce qu'il veut. Et j'aime bien ça. Que le spectateur puisse se sentir libre.
Merci beaucoup, Peter. Oui, on arrive à la fin de cet entretien, mais je voulais quand même qu'on dise quelques mots d'un film qui a peut-être été mal vu, mal compris, qui est le film que vous avez fait juste avant The Truman Show, qui s'appelle État Second, un film avec Jeff Bridges qui est un peu similaire, il me semble, au personnage que joue Jim Carrey dans The Truman Show. Il se retrouve suite à un accident, on ne racontera pas trop, un accident d'avion, avec un rapport très complexe à la réalité, comme si le monde devenait flottant autour de lui.
Yes, I love making that film.
Ah oui, j'ai adoré faire ce film.
My interest in it was, I think Jeff.
Mais mon envie de faire le film, c'était Jeff.
I didn't think of him in terms of.
Je pensais pas à lui.
Any other character, Jeff he just made Bridges. It his own, but yes, he is a man who is.
C'était un personnage qu'il a complètement inventé. Quelqu'un qui souffre d'un stress post-traumatique.
Is living in a
world dans un monde
a very dangerous world,
qui
really.
Est très dangereux en fait.
In it, he's lost his touch with reality.
Il a perdu tout contact avec la réalité.
And the film I was very carefully based on accounts of survivors.
Et je m'étais vraiment beaucoup inspiré de la parole de gens qui avaient survécu à des catastrophes aériennes. Et à des avocats qui s'occupaient de leur cas, j'ai rencontré 6 survivants. Et je les ai invités à San Francisco, ils ont pris l'avion. Et je leur ai dit, ça n'a jamais l'air vrai dans les films, donc parlez-moi de votre expérience, dites-moi. Tout a été enregistré, et donc j'ai transformé le scénario en me basant sur la véritable expérience de gens qui avaient survécu à des catastrophes. Et Jeff Bridges a adoré ça, il a vraiment été épatant.
Merci beaucoup, Peter Weir. Une toute dernière question. Quel conseil vous donneriez à un jeune homme, une jeune femme qui voudrait faire des films? Quelle est la chose à savoir?
Prenez un bateau pendant 5 semaines et partez vers l'inconnu. Vivez la vie. Avant de prendre une caméra, je crois que... Et moi, bien sûr, je viens d'une époque où c'était cher une caméra, c'était cher la pellicule. Mais avant de prendre une caméra, je prendrais un stylo, une page blanche, et j'écrirais une histoire. L'écrire et puis la lire, c'est ça vraiment, je crois, la bonne formation. Et voyager. Voyager de toutes les façons possibles. Il faut d'abord vivre la vie avant d'en faire des films.
Merci beaucoup, Peter Weir.
Mon plaisir.
Le festival de la Cinémathèque française se poursuit jusqu'à demain soir. Pour ce qui est de Peter Weir, si vous êtes à Paris, ne ratez pas aujourd'hui à 18h la projection de La Dernière Vague et à 20h de Pique-Nique à Hanging Rock, dont on entend la musique. Et demain, vous pourrez rencontrer Peter Weir, c'est à 14h30 dans un dialogue animé par Pauline de Raymond, et voir sur grand écran The Truman Show. Ce sera à 20h à la Filmothèque du Quartier Latin. On signale encore dans le même cadre deux films de Chantal Akerman, J'ai faim, j'ai froid et Toute une nuit en version restaurée, présentée en avant-première par la directrice de la photographie Caroline Champetier ce samedi 16 mars à 16h30 avant une rétrospective Akerman à l'automne et un coffret Blu-ray, ceci annoncé, place à d'autres musiques et aux chercheuses d'or.
Remember my forgotten man. You put a rifle in his hand. You set him far away. You shouted hip hooray. But look at him. You had him cultivate the land. the power, the sweat fell from his brow, but look at him right now. And once he used to love me, I was happy then. He used to take care of me. Won't you bring him back again? Forgetting him, you see, means you're forgetting me, like my heart.
Chanteuse afro-américaine Etta Motten à la fenêtre de son immeuble, un défilé militaire où les vaillants qui partent au front croisent les éclopés qui en reviennent avant de devenir une file de chômeurs à la soupe populaire et de se transformer enfin en kaléidoscope art déco anticipant l'art cinétique. C'est une des hallucinantes compositions inventées par le cinéaste et chorégraphe Busby Berkeley dans Les Chercheuses d'or de 1933. Oublié, Busby Berkeley, Forgotten Man, comme le dit la chanson, son nom ne dit sans doute pas grand chose à grand monde, sauf chez les amateurs de comédie musicale pré-Code Hayes ou des ballets nautiques d'Esther Williams, mais ses inventions, tout le monde les connaît, ne serait-ce que par leur reprise entre hommages et détournements dans la culture populaire. Fort heureusement, un ouvrage essentiel, aussi sérieusement documenté que férocement ludique, est paru, qui devrait redonner la place qu'il mérite à celui qu'on appelait le centupleur. Ça s'appelle Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges. C'est signé Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest, et vous y êtes plongé avec Délice and Tebin. Vous êtes avec nous depuis le festival de cinéma Écran Britannique à Nîmes, Bin.
Oui, alors c'est vrai que le nom de Busby Berkeley ne va peut-être pas dire grand-chose au public français. Pour un public anglo-saxon un petit peu plus versé dans le cinéma, le synonyme de Busby Berkeley, c'est des spectacles monumentaux, gigantesques, avec des girls plus ou moins dénudées ou parées de très belles tenues qui évoluent au son d'une musique entraînante. Ce qu'il faut pas oublier, c'est le génie créateur de celui qui fut non seulement un chorégraphe, mais un réalisateur et un vrai visionnaire qui a révolutionné le genre musical à partir de l'apparition de celui-ci à la fin des années 1920. Il avait d'abord démarré à régler des revues militaires dans une école militaire, et puis ensuite il est devenu à Broadway un grand pionnier des mises en scène fastueuses. Mais c'est quelqu'un qui était aussi de son temps, comme le prouve ce numéro que vous avez très bien décrit et qui parle de la dépression, mais d'une manière absolument incroyable. C'est un chant de social de la dépression des anciens combattants qui se retrouvent chômeurs, comme vous l'avez dit, des femmes qui lassent de les attendre. Se tournent, soit sont solitaires, soit vont vers la prostitution. Enfin, il y a un commentaire social. Et voilà, c'était un vrai cinéaste qui en a eu assez de voir des numéros musicaux chorégraphiés et filmés statiquement comme s'ils étaient dans une scène de théâtre, sur une scène de théâtre, et qui a fait danser la caméra avec et parfois plus que les danseurs et les danseuses eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces grandes figures kaléidoscopiques ou florales que composent les chorus girls dans les films de Busby Berkeley, soit réalisées entièrement par lui, soit uniquement pour les numéros musicaux, eh bien, cet art visionnaire se retrouve très bien retraduit dans la structure même de ce livre, assez étrange et exceptionnel, très ludique, comme vous l'avez dit, qui commence par une biographie de ce génie assez incroyable et très alcoolique, vraisemblablement, mais avec de temps en temps des interludes, par exemple les fameuses girls, les chorus girls de Busby Berkeley, qui étaient triées sur le volet et qu'il filmait dans des figures géométriques incroyables. Eh bien, ici, elles sont identifiées. On en a souvent des gros plans fugitifs dans les chorégraphies de Berkeley, mais ici vous avez la biographie de 80 girls qui se sont produites dans ces numéros musicaux, dans un interlude, et vous avez aussi une recension de toutes les formes qui peuplent esthétiquement ou thématiquement les grands numéros musicaux de Busby Berkeley. Et vous y côtoyez non seulement des choses attendues, comme par exemple la danse, mais aussi des accessoires comme un miroir, mais aussi des thèmes comme l'exotisme ou l'ombre, et la lumière et l'espace. Donc voilà, que cela ne vous empêche pas, évidemment, au contraire, que cela vous incite à les redécouvrir. Il y en a plein sur Internet, des numéros musicaux imaginés, chorégraphié et réalisé par Busby Berkeley. Si je vous donne comme ça quelques noms que vous pourrez mettre sur vos moteurs de recherche, 42e rue, 42nd Street, Chercheuse d'or de 1933, Gold Diggers of 1933, Dames en anglais, ou Footlight Parade, prologue. Voilà, vous tapez ces titres de films, les numéros musicaux sont absolument incroyables, fabuleux, et vous trouverez en filigrane de ces films des années 30 une sorte de commentaire sur non seulement la dépression économique, la grande crise de 1929 et ses répercussions, mais aussi une sorte d'utopie, une manière de collectivement créer de la magie à l'écran et à Broadway, puisque souvent ces films parlent de spectacles à Broadway pour essayer de surmonter les affres et les tourments de la société dans laquelle vous vivez. Donc c'est plus que jamais d'actualité.
Busby Berkeley, l'homme qui fixait des vertiges, de Séverine Danflou et Pierre-Julien Marest, c'est paru chez Marest Éditeur. Et on profite de votre présence, Bean, pour signaler la parution du nouveau Positif, avec notamment un dossier sur Michael Mann et son Ferrari. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Martin Troadec et Dalia. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.
Melody of 42nd Street. Oh, the lickin' fun of the dickin' of Serpent Street.